quand on avait monté cette quatrième journée FTLV avec les collègues du comité de pilotage et puis les collègues ici à Nantes, on s'était dit qu'on allait essayer de donner un focus particulier à la journée. C'est ce qu'on avait déjà fait sur les celles qui étaient précédentes, notamment par exemple la journée FTLV 3 en mars dernier qu'on avait fait à Jussieu, c'était sur la VAE. Alors là, cette fois-ci, on s'était dit qu'on allait se poser la question de quels sont les différents modèles sur lesquels il faut qu'on joue et qu'on perçoive mieux pour justement donner corps à cette idée de FTLV. Et finalement, ça nous a emmené sur une réflexion qui était un peu plus compliquée que simplement une seule journée, parce qu'on pouvait parler de modèles de travail, de modèles de carrière, de modèles économiques, de modèles organisationnels, de modèles pédagogiques. En fait, cette déclinaison de quels sont les modèles qu'on peut mobiliser et qui permettent d'éclairer un peu l'activité est suffisamment complexe pour lancer un cycle au sein du cycle. Donc c'est ce qu'on va proposer, et puis on attaque avec la journée d'aujourd'hui sur une des préoccupations qui sont les modèles de travail et de déroulé des carrières. Et justement, on voyait bien tout à l'heure avec la discussion avec les deux VP sur la question de la formation à distance, que justement c'est répondre à des gens qui ne sont pas si loin parce qu'ils sont en train de travailler et qu'il faut prendre en compte ça dans l'activité. En formation initiale aussi, on a quand même depuis des années le statut d'étudiant salarié qui existe. Et finalement, entre quelqu'un qui serait en formation continue mais qui reprendrait ses études en travaillant et quelqu'un qui serait en formation initiale sous statut salarié et donc qui travaille pour financer ses études, est-ce qu'il y a une réelle grosse différence qui nécessite à ce point un changement de statut dans la façon de les gérer? C'est peut-être aussi ça le concept de FTLV, c'est de moins en moins opposer FI, FC, quand en plus les conditions de vie des apprenants sont les mêmes. Donc plutôt orienté sur les apprentissages, effectivement, comme disait Thierry, ça peut être une idée. Alors dans cette idée de modèle de travail, modèle de déroulé de carrière, on a voulu inviter en tant que grand témoin Hélène Garner. Et Hélène Garner va nous parler de mutation du travail et de l'emploi avec la transition numérique. Alors je l'invite à nous rejoindre et vous pouvez l'applaudir. Hélène Garner donc, est directrice du département Travail, Emploi et Compétences au sein de France Stratégie. France Stratégie qui est une agence, je ne sais pas si c'est vraiment une agence, mais qui relève directement de Matignon, donc du Premier ministre, et qui éclaire par ses analyses les stratégies, les décisions à prendre dans le fonctionnement de l'État. Merci beaucoup à Hélène Garner d'avoir accepté notre invitation, parce que je pense que vraiment, on va être au cœur du sujet et au cœur des compétences dont on a besoin de s'imprégner. Merci à elle.
Merci, merci beaucoup. Merci pour votre invitation. Je ne sais pas, on est trop près du micro, je ne vois pas trop. Merci à l'Université de Nantes, merci à la DGCIP de nous avoir invités à venir présenter donc aujourd'hui dans un format à la fois long et réduit de 45 minutes, un panorama des mutations du travail et de l'emploi. Je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui parce que on a toujours envie de confronter nos analyses un peu macro, souvent fondées sur des observations statistiques. Vous allez le voir, je vais vous présenter un certain nombre de travaux pour illustrer ce panorama des mutations du travail et de l'emploi à l'heure du numérique. Et on a toujours intérêt à confronter ce travail un peu d'analyse macroéconomique à vos pratiques de terrain. Et c'est dans la confrontation de ces échanges qu'il y a un intérêt. Donc il y a des choses que vous allez trouver dessinées un peu grossièrement, donc on a tout intérêt à vous écouter ensuite pour affiner nos analyses. C'est un panorama donc qui n'est pas exhaustif. Je vais vous donner quelques grandes tendances qui, je l'espère, vous permettront d'alimenter vos réflexions. Il y a beaucoup de convergences d'analyses entre ce que j'ai entendu déjà ce matin et sûrement ce que vous allez discuter dans le cadre de vos ateliers cet après-midi. Voilà, je m'excuse par avance si ce sera parfois un peu rapide, compte tenu des enjeux très importants qu'on va soulever ensemble. Bon, le déroulé de l'intervention, un peu scolairement, je ne suis pas habituée à ce style d'agora, c'est de quoi on parle. Donc, les mutations de l'emploi, les mutations du travail, la transition numérique, l'impact que ça a sur l'emploi et le travail, c'est-à-dire les formes d'emploi et la manière dont on travaille aujourd'hui, et les implications pour la formation. Je vais revenir sur un certain nombre de points, et puis sur d'autres, vous serez sûrement plus experts que moi, notamment sur les pratiques pédagogiques. Sur les mutations de l'emploi, on a aujourd'hui un certain nombre de phénomènes qui caractérisent ces mutations de l'emploi. La première, c'est une forte tertiarisation de notre économie. La part des services dans la production de l'économie est de l'ordre de 75%. Donc les trois quarts de notre économie renvoient à des activités du tertiaire. C'était 52% en 75. Donc on a une tertiarisation croissante, ce qui se traduit en termes d'emploi par une forte composante servicielle des emplois. Et ça, ce n'est pas du tout neutre sur les compétences et les attentes des employeurs en matière, quand ils recrutent des salariés, parce que cette dimension servicielle, elle va valoriser toutes les compétences dites relationnelles, communicationnelles, tout ce qu'on appelle les soft skills, on reviendra dessus. Mais donc ça, c'est une tendance importante de notre économie, cette tertiarisation de l'économie. Quand on parle de formes d'emploi, on regarde souvent, on décrit ça à travers les statuts d'emploi. En fait, on a une relative stabilité de ces statuts d'emploi, en termes notamment de contrats de travail. Les salariés représentent 88% des actifs en 2016, et parmi eux, plus de 85% sont en contrat à durée indéterminée. Donc on a parfois un décalage entre ce sentiment d'une relative stabilité et en même temps, on voit la multiplication des contrats courts et des contrats qui sont de plus en plus courts, et c'est vrai. Mais en stock, on a une relative stabilité de ces formes d'emploi. La part des non-salariés, qui est 11,8%, donc des indépendants en 2015, elle est relativement stable aussi. Mais en fait, ce qui change, c'est à l'intérieur de ces statuts d'emploi, on a une forte recomposition. C'est-à-dire qu'au sein des salariés, on a de plus en plus de formes d'emploi dites atypiques, c'est-à-dire du travail à temps partiel, du travail intérimaire, des contrats courts. Les contrats courts, aujourd'hui, représentent plus de 85% des flux d'embauche. Donc si en stock, on a une relative stabilité, on a une multiplication des embauches en contrats courts et des contrats qui sont de plus en plus courts. C'est-à-dire que les contrats de moins d'un mois représentent les deux tiers de ces contrats courts. Donc on a des gens qui tournent de plus en plus sur des contrats courts. Et ça, ça se traduit par à la fois une fragmentation de l'emploi, mais aussi des carrières. On a des carrières moins linéaires qu'il y a 20 ans, plus sachées, avec davantage de passages par le chômage. Et ça va aussi avoir un impact sur l'acquisition des compétences et la manière dont on se forme. C'est-à-dire que l'accès à la formation, il est beaucoup moins important pour les personnes qui sont en contrat court. C'est pas une question de droit, c'est une question de recours. Et multiplier les contrats courts, ça décroît votre probabilité d'accéder à de la formation. Donc ça incite aussi à penser de nouvelles formes d'acquisition des compétences, cette multiplication de formes d'emploi atypiques. Corollaire de la tertiarisation de l'emploi, on a aussi une recomposition des formes de non-salariés. C'est-à-dire qu'au sein des indépendants, on a une relative stabilité, on a une légère hausse ces dernières années du nombre d'indépendants, mais à l'intérieur de ces indépendants, on a de plus en plus ce qu'on appelle des néo-artisans, c'est-à-dire des indépendants dans les secteurs plombier, menuiserie, électricien, et aussi dans les secteurs du tertiaire. En lien avec cette tertiarisation, donc dans des métiers à fort contenu cognitif et aussi les métiers du secteur paramédical, on a une augmentation des indépendants dans ces métiers en lien avec le développement de formes juridiques hein, comme auto-entrepreneur qui favorise le recours à l'indépendance. Donc on a un marché du travail qui est plus féminisé, ça c'est une autre tendance évidemment très importante, c'est l'entrée des femmes et la participation des femmes au marché du travail, plus qualifiées aussi, vous le savez, mais plus précaires avec le développement de ce qu'on appelle des zones grises autour de l'emploi, à la marge, avec des personnes qui souhaiteraient travailler mais qui sont considérées comme inactives, c'est ce qu'on appelle le halo du chômage. Il représente aujourd'hui environ 1,6 million de personnes. qui sont donc classées dans les inactives, donc qui sortent de la population active, mais qui souhaiteraient en réalité travailler, mais qui ne satisfont pas tous les critères pour être considérés comme des demandeurs d'emploi au sens du Bureau international du travail. On a également des personnes qui souhaiteraient travailler davantage, c'est-à-dire des personnes qui sont en emploi, le plus souvent en temps partiel, mais qui souhaiteraient travailler davantage, c'est ce qu'on appelle le sous-emploi, et ils représentent environ 6,5% des actifs occupés. Ce sont essentiellement des personnes à temps partiel, ce sont aussi des personnes qui peuvent être en chômage partiel, chômage technique, mais c'est essentiellement ce qu'on appelle le temps partiel subi, c'est-à-dire du temps partiel de gens qui souhaiteraient travailler davantage, et ça concerne majoritairement les femmes qui sont les plus à temps partiel. On a aussi donc des personnes qui enchaînent les contrats courts, on l'a vu tout à l'heure avec la multiplication de ces contrats courts, et qui alternent les passages entre l'emploi et le chômage. On a de plus en plus de transitions vers le chômage. Elles ont augmenté depuis 30 ans de façon très importante. On a publié l'an dernier tout un travail sur les transitions. Et ce qu'on observe, c'est qu'il y a à la fois plus de transitions sur le marché du travail, c'est-à-dire plus de gens qui changent d'état d'une année à l'autre, mais aussi beaucoup plus de passages dans ces transitions par le chômage. Et ça, c'est lié à la multiplication de ces contrats courts et aux périodes de chômage entre deux contrats. Des personnes qui sont à la frontière de l'emploi et du non-emploi, donc ça, c'est des personnes qui cumulent différents statuts. Vous parlez tout à l'heure de salariés étudiants, on a aussi des retraités qui travaillent, de l'activité réduite. Ça, c'est un phénomène assez marquant, c'est-à-dire des demandeurs d'emploi qui effectuent du travail pendant le mois. Donc c'est ce qu'on appelle l'activité réduite. Le nombre de ces chômeurs qui travaillent, ça représente la moitié des demandeurs d'emploi indemnisables, et leur nombre a doublé depuis 2008. Donc on est passé de 1 à 2 millions de demandeurs d'emploi qui travaillent sur le mois alors qu'ils sont enregistrés donc, à Pôle emploi. Et puis des personnes qui cumulent différents statuts, on en a parlé, entre inactifs et actifs, mais aussi des indépendants qui sont salariés. Donc tout ça contribue à brouiller les frontières entre activité, non-activité, entre salariat et indépendant. Et quand on travaille à partir des données statistiques, on a parfois du mal à repérer ces catégories de façon totalement étanche. Ça fait aussi évoluer la statistique sur la manière de prendre en compte ces évolutions du marché du travail. Ça questionne évidemment notre modèle de protection. Notre modèle de protection qui était fondé sur la norme du salarié en CDI à temps plein. Et aujourd'hui, avec cette multiplication des formes d'emploi, ça oblige à repenser la manière dont on protège les individus, avec deux tendances fortes. Une qui a été évoquée tout à l'heure, qui est l'individualisation. On retrouve également cette question de l'individualisation dans la protection des travailleurs, avec des réflexions sur le statut de l'actif, par exemple, c'est-à-dire un statut qui couvrirait tous les travailleurs, indépendants ou salariés. Et l'autre tendance, c'est l'universalisation. Donc ça renvoie aussi à ce que vous disiez tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en parallèle, on réfléchit à, par exemple, une extension de l'assurance chômage aux indépendants. L'assurance chômage, c'est un risque qui était de perte d'emploi qui était associé au salariat. Et il y a une réflexion en cours ouverte par le gouvernement sur une extension aux indépendants qui change la philosophie même, évidemment, du système de protection et qui va dans le sens d'une protection universelle, c'est-à-dire ouverte à tous les actifs. Donc ça, ce sont des tendances fortes qui sont liées évidemment aux évolutions de la structure productive et aux évolutions de l'emploi dont je viens de parler. Sur les mutations du travail, on travaille de façon très différente d'il y a 30 ans. On en est tous conscients avec les innovations techniques, organisationnelles, technologiques, la mondialisation de l'économie. Le travail a subi de grandes transformations. Du côté des employeurs comme du côté des travailleurs, les attentes et les besoins ont évolué. L'organisation taylorienne standardisée ne correspond plus à la manière dont on travaille, dont on produit aujourd'hui. On observe de nouvelles formes d'organisation du travail, plus par projet, plus matriciel, en réseau, marqué aussi par une individualisation et en même temps un développement du travail collaboratif. Donc on a des tendances qui sont à la fois complémentaires et qui parfois peuvent être un peu paradoxales. C'est-à-dire qu'on observe à la fois une individualisation dans l'organisation du travail, mais aussi dans les modes de gestion des travailleurs et des ressources humaines. Et une demande de polyvalence, de travail en équipe, de collaboration qui est aussi plus grande. Donc, tout ça concourt. On pourrait penser, quand on regarde les attentes des travailleurs et des salariés, notamment en termes d'autonomie, qu'elles sont convergentes. En réalité, ce n'est pas tout à fait de la même autonomie dont on parle. Il y a l'autonomie qui, pour les salariés, est une forme d'émancipation, de liberté dans l'organisation de son travail, en lien avec le développement du travail aussi intellectuel et du travail qualifié. Pour les entreprises, l'autonomie, ça renvoie à une capacité à organiser son travail, mais sous contrainte. C'est ce qu'on appelle aussi une autonomie en partie subie. Et donc, en apparence, il y a une convergence des attentes, mais en réalité, si le travail devient plus intéressant, il est aussi plus intense. Et il est plus stressant, il est davantage centré sur l'individu, avec une plus forte responsabilisation de l'individu dans l'acte même de travail. Et donc cette individualisation, cette responsabilisation, elle est source de stress. On a vu monter depuis une dizaine d'années ce qu'on appelle les risques psychosociaux, qui renvoient à ce phénomène de stress au travail. Il y a une enquête de la CFDT parue récemment qui s'appelait « Parlons travail ». La CFDT a interrogé plus de 200 000 travailleurs sur le travail, les attentes, les conditions de travail, enfin un certain nombre de thèmes. Et on voit que la moitié des actifs qui ont répondu se disent autonomes et heureux, mais ils sont autant à dénoncer la charge de travail. Donc on voit qu'il y a une ambivalence entre cette autonomie et le stress qu'elle produit, cette intensification du travail qui se traduit, je vous ai mis quelques chiffres, combinés aux évolutions technologiques, parce que le numérique a tendance à renforcer ces risques psychosociaux, le travail sous pression, le fait que les salariés continuent à penser de temps en temps à leur travail, même quand ils n'y sont pas, et le sentiment de devoir se dépêcher au travail. Cette question de normes de disponibilité, avec le numérique, on peut travailler sans être sur le lieu de travail. Il y a une porosité plus grande entre les sphères. Là aussi, il y a une ambivalence entre des salariés qui demandent un plus grand équilibre entre leur temps de vie personnel et professionnel. Et le numérique, ça peut être un moyen de gérer ça, de partir plus tôt, de travailler chez soi. Mais on voit aussi le risque de faire rentrer le travail dans la sphère personnelle sans limite. Et donc, ce stress psychologique, cette tension qui pèse sur les salariés, y compris quand ils ne sont plus au travail. Donc ça fait partie, évidemment, des grandes évolutions du travail. Sur la transition numérique, c'est évidemment une tendance extrêmement forte du début du XXIe siècle, une vague d'innovation technologique puissante qui affecte en profondeur nos sociétés, nos modes de production et de consommation. Donc là, je vous propose une définition. Donc c'est le processus d'appropriation des nouveaux usages du numérique par les entreprises, l'État, les personnes. Et l'intégration de ces nouvelles technologies pour améliorer la compétitivité et la productivité. Donc on voit bien qu'on a un double enjeu. Il y a un enjeu technologique et puis il y a comment on intègre ces technologies dans nos manières de travailler, de produire, d'enseigner, qui renvoie à d'autres difficultés. Cette transition numérique, elle alimente les espoirs et les peurs. On est frappé par le nombre de demandes qu'on reçoit au sein de France Stratégie sur la question de l'impact de l'automatisation, de la digitalisation sur l'emploi. On a le sentiment que si chaque révolution technologique a engendré ce type de peur, parce qu'on a tendance à oublier qu'à chaque révolution, il y a eu des révoltes, il y a eu une peur de la technologie sur le travail, on a le sentiment que cette révolution technologique, elle est tellement profonde et massive qu'elle engendre des peurs à la hauteur. Et donc, avec nos chiffres, on essaye de regarder, d'objectiver un petit peu cet impact. Alors, c'est pas toujours très facile. Je voulais vous montrer simplement sur... Mais je reviendrai après dessus. Sur j'ai été trop vite. Donc, je vais revenir. Voilà. L'impact, donc ça, c'est un sujet très important pour nous parce qu'on a beaucoup de demandes et parce qu'on a du mal à y répondre aussi. Donc, on creuse sur la question. C'est encore. De l'impact de la transition numérique sur le travail et l'emploi. France Stratégie, c'est le nom de l'ancien commissariat général au plan, qui était donc fondé en 1946. Et dans notre mission originelle, on a plus de planification, mais une mission de prospective. Et donc, on essaye de réfléchir, en lien avec les mutations du travail et de l'emploi dont, que je viens d'évoquer rapidement, les impacts sur le travail et l'emploi et comment les pouvoirs publics peuvent réguler. Donc, on essaye de faire des propositions en termes de politique publique pour accompagner ces mutations et réguler pour éviter l'accroissement des inégalités et une diffusion positive de cette transition numérique. Alors, qu'est-ce qu'on sait sur l'impact de la transition numérique sur l'emploi et le travail ? En fait, il y a beaucoup d'incertitudes. Il y a beaucoup d'études, je vais vous en citer quelques-unes. On a notamment une incertitude sur l'effet net de cette transition. C'est-à-dire qu'on arrive à peu près à évaluer l'effet brut, c'est-à-dire les destructions ou transformations de l'emploi qui vont être générées par la transition numérique. Mais on a beaucoup d'incertitudes sur les créations d'emplois. On sait qu'il va y en avoir des créations d'emplois. On arrive à peu près à sentir les métiers ou les domaines, mais l'effet net, on a beaucoup de mal à l'évaluer. Sur les destructions d'emplois, il y a plusieurs études qui circulent. Alors, je vous montre celle qui a vraiment été la plus reprise et qui a contribué énormément aux peurs en lien avec cette automatisation, numérisation de l'économie, qui est l'étude de Frey et Osborne, donc des Américains, en 2013, qui ont estimé à peu près à la moitié des emplois aux États-Unis qui allaient être détruits en lien avec l'automatisation. Et ça a contribué à la diffusion mondiale de la thèse sur la fin du travail. Alors cette étude, elle a été reproduite avec la même méthodologie sur différents pays. Sur la France, je ne sais pas si vous voyez très bien, on est à 42% d'emplois qui sont susceptibles d'être détruits par l'automatisation. Donc ça, cette étude, elle a énormément alimenté les peurs, évidemment, et les réflexions sur la fin du travail, l'avenir du travail et les mutations du marché du travail. Alors, je voudrais citer trois études récentes qui relativisent la destruction d'emplois générée par l'automatisation. La première, en réalité, bon, les deux de 2016, donc l'étude de l'OCDE et l'étude de France Stratégie, aboutissent à des conclusions beaucoup moins catastrophiques. En fait, ça renvoie aussi à des méthodologies différentes. C'est-à-dire que dans ces études, donc l'étude de France Stratégie, l'étude de l'OCDE, on ne s'intéresse pas aux métiers en entier, mais aux tâches qui composent ces métiers. Donc on décompose les métiers en tâches et on regarde les métiers qui sont les plus susceptibles d'être automatisés. Alors l'étude de l'OCDE pour la France, en s'appuyant sur l'enquête compétences des adultes, l'enquête PIAAC, évalue environ 9% des emplois qui présentent un risque élevé d'automatisation et donc potentiellement de destruction. L'étude de France Stratégie, c'est environ 15% des emplois qui seraient automatisables. Elle s'appuie sur une autre enquête, qui est l'enquête conditions de travail de la DARES, en regardant la manière dont les gens travaillent, notamment le rythme imposé, l'application stricte de consignes. Et donc, on évalue les emplois, les tâches qui sont susceptibles d'être automatisées, c'est-à-dire effectuées par des robots essentiellement. Et ce qu'on constate dans l'étude de France Stratégie, c'est que la part des emplois automatisables, des emplois peu automatisables, a eu plutôt tendance à augmenter sur 20 ans. Donc ça, c'est plutôt à contre-courant de ce qu'on entend habituellement, en lien avec des emplois de plus en plus qualifiés et une complexité des tâches qui restent dévolues à l'humain. L'étude du Conseil d'orientation pour l'emploi de 2017, aussi sur cette question de l'impact de l'automatisation sur l'emploi, estime à environ 10% les pertes d'emplois qui sont liées à la révolution numérique. Mais, et ça c'est évidemment un enjeu central pour vous et pour nous et pour tous les acteurs de la formation et de l'emploi, 50% des emplois vont être transformés sous l'impact de l'automatisation. Donc l'enjeu, c'est au-delà des questions de destruction, c'est surtout la question de la transformation des emplois. La transformation des emplois, elle va être massive
générée par la transition numérique. Et on note que le progrès technique, il va favoriser l'emploi qualifié et très qualifié. Les tâches les moins qualifiées, elles vont être automatisables en partie. Et donc, ce qui va rester dévolu à l'humain, ça va être le complexe. Le compliqué, il va pouvoir être ou le standardisé, ou le répétitif, ou le monotone, il va pouvoir être en partie effectué par des automates, mais le complexe, il va rester dévolu à l'humain. Alors, quelques éléments de perspective pour la décennie qui vient. Donc, je vous l'ai dit, ça fait partie de nos missions d'essayer de donner des éléments qui permettent d'éclairer un peu l'avenir. Si on se place dans une perspective prospective, on voit que, comme toutes les économies avancées, la France va connaître dans les prochaines années un nombre élevé de départs en fin de carrière, départs à la retraite, des générations du baby-boom. On évalue environ 600 000 par an, les départs en retraite d'ici 2022. Mais ces départs, ils seront plus que compensés par l'allongement de la durée d'activité, qui est liée au recul de l'âge de la retraite, et aussi à l'arrivée de générations un peu plus nombreuses sur le marché du travail. Et donc, au total, la population active, elle devrait quand même croître en France d'environ 3% entre 2017 et 2027, selon le scénario central de l'INSEE. Donc ça, c'est effectivement un facteur de dynamisme, la progression de la population active, mais elle implique évidemment qu'on ait des créations d'emplois qui soient à même d'absorber ce dynamisme de la population active. Quand on compare par exemple à l'Allemagne, c'est souvent un élément central, puisque c'est un pays qui a une démographie plutôt en baisse, ce qui favorise évidemment une baisse du chômage par rapport à nos économies où on a un dynamisme démographique qui fait qu'on a des fortes entrées chaque année de jeunes sur le marché du travail. On a aussi des départs, mais on a un équilibre qui n'est pas tout à fait assuré. Donc elle implique qu'il y ait des créations d'emplois qui soient à la hauteur, mais il y a la question quantitative, mais aussi la question qualitative. De quels emplois on parle ? On a une population active qui est de plus en plus diplômée, de plus en plus qualifiée. Les nouvelles générations, donc celles qui rentrent sur le marché du travail, elles sont plus qualifiées et plus diplômées que celles qui en sortent. On a une proportion, vous ne voyez pas très bien, mais la part des diplômés du supérieur, mais vous connaissez ça par cœur, ne fait que croître depuis 30 ans, même si elle a tendance à se stabiliser un petit peu. Et donc, ça fait mécaniquement augmenter le niveau d'éducation dans la population active. Et donc, il y a évidemment un enjeu très important en face, quels emplois on offre à ces générations de plus en plus diplômées qui arrivent sur le marché du travail. Alors là, je vous présente, vous voyez bien, j'espère, un graphique qui est issu d'un de nos exercices centrales qui s'appelle PMQ, c'est Projection des métiers et des qualifications. Donc ça, c'est un exercice qu'on conduit avec le ministère du Travail tous les 5 ans environ. C'est vraiment un exercice de prospective décennale sur les métiers et les emplois à 10 ans. Et donc, on essaye, à partir de scénarios macroéconomiques, de dessiner les métiers qui montent, les métiers qui baissent, en tenant évidemment compte des départs en fin de carrière, des entrées sur le marché du travail. Et donc là, je vous ai mis le graphique qui montre les 20 métiers qui offrent le plus de postes à pourvoir entre 2012 et 2022. Le dernier exercice qu'on a publié, c'est l'exercice 2012-2022. Alors, ce qu'on voit en lien avec la tertiarisation des emplois qui continue d'être importante, qui va s'appuyer sur une forte dynamique des métiers dans le soin, des métiers dans le commerce et l'aide à la personne qui vont compenser les métiers qui sont en décroissance. Bon, un élément, le premier métier qui ressort, c'est agent d'entretien. C'est un métier pour lequel il va y avoir énormément de postes à pourvoir, donc le plus, qui est lié essentiellement, je ne sais pas si vous voyez bien les couleurs, mais en gris, c'est les départs en fin de carrière. C'est-à-dire c'est des métiers pour lesquels il y a une pyramide des âges qui fait qu'il y a beaucoup de départs en fin de carrière, plus que de création nette d'emploi. Le deuxième, c'est aide à domicile. On a ensuite enseignants, cadres des services administratifs et financiers, aides-soignants, vendeurs. Donc on a des métiers du commerce, des métiers du soin. Alors évidemment, quand vous présentez ce graphique à des étudiants, c'est-à-dire qu'on met en regard une population qui est de plus en plus diplômée, et puis on leur dit, le premier métier qui va, en termes de postes à pourvoir en 2022, c'est agent d'entretien. Bon, on voit bien que ça pose une question, alors qui dépasse évidemment votre cadre, mais qui interroge les politiques publiques sur les trajectoires professionnelles, c'est-à-dire comment on fait rentrer des jeunes sur ces métiers et quelles perspectives on leur offre ensuite en termes de mobilité. C'est la même question sur les métiers du soin, hein, les métiers d'aide à la personne, les métiers des services à la personne. Ce sont des métiers pour lesquels on a a priori peu besoin de qualifications pour rentrer, mais il y a des problèmes d'attractivité. Voilà, comment attirer des jeunes qui sont de plus en plus qualifiés sur des métiers à la fois peu qualifiés et qui offrent peu de perspectives de carrière. Donc il y a un vrai, véritable enjeu pour les politiques publiques, pour les acteurs, hein, à construire des carrières, à faire de ces métiers des entrées de carrière qui mènent vers autre chose. Construire des parcours, des passerelles vers d'autres métiers. Et là, ça rejoint notre réflexion sur les compétences et leur transférabilité et leur transversabilité. Pour pas que ces métiers, pour l'instant, ce sont des métiers qui sont occupés notamment par des gens en deuxième partie de carrière. C'est pour ça qu'on a beaucoup de départs en retraite, parce que ce sont des gens qui... Ce ne sont pas des métiers de premier début de carrière. Et on comprend bien pourquoi. Ce sont des métiers dans lesquels les conditions de travail, les conditions d'emploi sont relativement peu attractives. Donc là, on a un risque de décalage. L'autre élément qu'on observe quand on regarde la structure des emplois à 10 ans, c'est une relative polarisation des emplois. C'est-à-dire qu'on va avoir une évolution avec une croissance des emplois très qualifiés et peu qualifiés. Et donc ça, c'est une tendance qui est commune à toutes les économies occidentales, qui est peut-être un petit peu moins marquée en France que dans d'autres pays, mais qui interroge aussi sur la manière dont on va construire les parcours de nos jeunes qui sortent de formation initiale et comment on leur permet de s'adapter tout au long de la vie pour éviter que cette polarisation soit trop forte entre très et peu qualifiés. Alors je vous mets un autre graphique qui est tiré du dernier rapport du Conseil d'orientation pour l'emploi. 5 minutes. Ok, il faut que j'aille un peu plus vite. Alors, ce graphique, non, c'est pas celui-là. Voilà. On voit que, alors c'est un graphique qui est tiré du rapport du CE qui montre les métiers qui sont les plus exposés à l'automatisation. On voit que le métier qui est le plus concerné par l'automatisation, le plus susceptible d'évoluer, c'est agent d'entretien. Donc on retrouve notre agent d'entretien, qui est donc à la fois le métier pour lequel il y aura le plus de postes à pourvoir, mais qui est aussi le métier qui est le plus susceptible d'être impacté par l'automatisation des emplois, et qui donc nécessite aussi une évolution en termes de compétences. Un autre élément important dont il faut tenir compte, c'est le risque d'inadaptation, je viens d'en parler, des compétences et des emplois. Là, c'est un graphique qui est tiré d'un rapport de l'OCDE qui montre qu'en France, il y a seulement un tiers des actifs qui occupent un emploi en lien avec leur spécialité avec leur formation initiale. Donc ça, c'est à la fois, ça incite à réfléchir sur le lien emploi-formation et la manière dont on construit des formations et l'insertion sur le marché du travail. Mais c'est aussi, c'est pas un problème si c'est parce que nos étudiants, nos jeunes, nos formés ont des compétences qui leur permettent d'aller sur différents emplois. Mais ça, c'est une spécificité française qui est relativement marquée, d'avoir une part élevée des emplois qui sont occupés par des gens qui n'ont pas de formation dédiée à ce métier. Alors, je vais aller un peu plus vite. Du côté des organisations du travail, des évolutions qu'on dessine à 10 ou 20 ans, on a publié un travail récent qui tente de dessiner les évolutions majeures en matière d'organisation du travail. Vous ne voyez pas très bien, mais je vais aller assez vite. On voit que la transition numérique, c'est un facteur central d'évolution des organisations du travail, avec 4 organisations qui ressortent. La plateforme apprenante virtuelle, le super intérim, le taylorisme New Age, et l'organisation apprenante. Bon, je ne vais pas détailler toutes ces formes d'organisation, mais le maître mot commun, c'est que dans ces 4 formes d'organisation, on a beaucoup d'autonomie, parfois subie, parfois choisie. On a du travail qui s'individualise encore plus dans 3 formes d'emploi sur 3 formes d'organisation sur 4. Et on a un affaiblissement du lien de subordination classique et développement de formes de subordination un peu différentes qui renvoient aux évolutions du salariat et du hors-salariat traditionnel. Et donc, évidemment, les politiques publiques doivent accompagner ces évolutions. Alors, je voudrais maintenant l'impact de la transition numérique sur les compétences. Ces mutations de l'emploi et du travail, elles entraînent évidemment une évolution considérable des besoins en compétences. compétences de base, compétences techniques, compétences sociales. On a aujourd'hui, sur ces différents types de compétences, un déficit quand on se compare à d'autres pays européens. Et les compétences des actifs français, elles restent insuffisantes. Par exemple, en termes de compétences numériques de base, on a 8% de la population active qui n'en a aucune, contre 3% seulement en Grande-Bretagne, et un tiers de notre population active qui a un niveau faible. Sur les compétences techniques, en lien avec la transition numérique, ça ne se limite pas évidemment à la maîtrise des outils numériques, mais tout ce qui a trait à la robotique, aux données, au big data, à l'Internet des objets, à l'intelligence artificielle. Et là aussi, on a un déficit de compétences techniques en lien avec cette transition numérique. Sur les compétences sociales, ce sont des compétences qui, en lien avec le digital, correspondent à des compétences en communication, la capacité à travailler en réseau, la capacité à travailler en équipe, la gestion de projet, la capacité à apprendre, donc tout ce qu'on appelle les soft skills. Et d'après l'étude du CEE, on a environ 13% des actifs français qui sont en difficulté sur ces compétences et 30% qui devraient progresser pour profiter vraiment des opportunités offertes par l'économie numérisée. Avec un risque de pénurie de travailleurs sur ces métiers du numérique qui risque d'aller en s'accroissant selon les prochaines années. Il y a une étude de la Commission européenne qui estime qu'on va avoir de fortes tensions dans le secteur du numérique en lien avec une insuffisance de compétences numériques dans notre population active. Donc, dans une économie digitalisée, les compétences transversales, elles prennent une importance accrue. Ce sont des compétences dont je viens de parler, qui sont génériques et à la fois mobilisables dans diverses situations de travail. Donc, elles favorisent la capacité à être mobile, à occuper des emplois différents. Et on sait que la trajectoire linéaire des générations précédentes ne sera plus la norme, n'est déjà plus la norme d'emploi. Et donc ces compétences génériques et transversales, il faut les favoriser à la fois dans la pédagogie, mais aussi dans la manière dont on va les acquérir tout au long de la vie, et ça impacte le système de formation. La grande question que, évidemment, vous êtes ici aussi pour discuter, mais qu'on se pose, c'est comment on va concilier l'adaptation de l'offre de formation et l'évolution rapide des besoins en compétences. On voit que la formation continue, elle est au centre de l'adaptation des compétences des salariés, et il faut construire un continuum entre formation initiale et formation continue. Donc vous parliez de formation tout au long de la vie, c'est quand même un mantra qu'on entend depuis extrêmement longtemps maintenant, mais c'est comment concrètement on arrive à construire pour qu'il n'y ait plus ce gap entre les deux, c'est-à-dire qu'effectivement que le destin d'un individu ne soit pas figé à la sortie de sa formation initiale, et c'est aujourd'hui encore le cas. Il y a un déterminisme très fort, et comment on peut avoir, comme on entend en ce moment, un droit à l'erreur, un droit au retour, un droit à choisir aussi tout au long de sa vie sa trajectoire. Alors, l'acquisition des compétences en continu, accumulables et mobilables, évidemment, c'est la question du bloc de compétences qui est centrale. Vous en avez parlé. Elle a été introduite dans la loi du 5 mars 2014, notamment à travers le compte personnel de formation, qui correspond justement à une volonté de faire progresser les individus d'au moins un niveau de qualification au cours de la vie professionnelle. Ça, c'est inscrit dans la loi. C'est l'objectif du CPF. Et donc, dans cette perspective, l'objectif pour l'individu, c'est d'acquérir une certification complète. Et on voit que le CPF, qui est limité à 150 heures, évidemment, ne permet pas d'acquérir une certification complète. C'est pourquoi la loi prévoit que les formations qui sont éligibles au compte personnel de formation, elles soient découpées en blocs de compétences. Blocs de compétences qui sont enregistrés au répertoire français des certifications professionnelles. Et donc, dans cette logique bloc de compétences, qui sont individualisées, on est sur une partie de la certification. C'est-à-dire qu'on va acquérir une partie de la certification avec l'idée de pouvoir cumuler, porter ces blocs jusqu'à acquérir une certification complète. Alors, tous les certificateurs sont mis au travail, ont réécrit leur diplôme, leur titre, leur certification selon cette logique de bloc de compétences. Mais, et vous en avez parlé tout à l'heure, on a publié un rapport là-dessus, et un des constats importants, c'est une limite sûrement, enfin en tout cas une difficulté à franchir, c'est qu'on observe aujourd'hui une grande hétérogénéité d'approche et de découpage des certifications en blocs de compétences entre les certificateurs. Il y a plusieurs types de difficultés. Il y a comment on prend en compte les compétences générales dans ces blocs. Pour certains certificateurs, ces compétences générales, transversales, elles sont intégrées dans les compétences, dans les blocs de compétences techniques, tandis que pour d'autres certificateurs, ce sont des blocs de compétences en elles-mêmes. Avec, on va le voir, des différences dans la manière dont elles sont même dénominées et qualifiées. Une seconde différence, ça tient à la conception même du bloc de compétences. Et la loi la définit comme une partie identifiée d'une certification. Et les certificateurs maintiennent l'objectif d'utiliser ces blocs dans des démarches qui visent l'obtention d'une certification complète. Donc le bloc doit être reconnu, validé, mais sans être certifiant pour autant tout de suite en lui-même. Mais on voit qu'émerge une certaine logique d'autonomisation des blocs, comme en témoignent par exemple les certificats de compétences professionnelles, les CCP, qui correspondent à des titres, à des validations partielles des titres professionnels du ministère du Travail. Donc on voit qu'on a une logique bloc-certification qui n'est pas encore tout à fait bien articulée. Et puis la troisième différence, c'est une profonde... entre les certificateurs, on a des manières différentes de faire de l'ingénierie de certification. Il y a plusieurs organismes certificateurs qui coexistent, qui développent chacun leur propre démarche de certification. Et donc tout ça, ça crée un peu de brouillage dans la manière dont on définit, dont on certifie ces blocs de compétences, alors que l'enjeu de ces blocs, c'est vraiment de pouvoir construire tout au long de sa vie, d'acquérir des blocs et de pouvoir acquérir une certification. Donc ça rend, c'est vraiment l'outil majeur pour faire de la formation tout au long de la vie, mais il y a encore un enjeu d'homogénéisation des pratiques et de la manière dont on certifie ces blocs de compétences. Bon, je vous ai mis un extrait, vous ne voyez pas très bien, mais c'est un document qui est en ligne. C'est un document qui vous montre un comparatif des référentiels des compétences de base ou socle entre l'enseignement supérieur, la Commission européenne, l'éducation nationale et les partenaires sociaux dans le cadre du COPANEF. Et donc à chaque fois, c'est comment on met dans le socle de compétences transversales de base qui fondent ces compétences transversales. Et on voit qu'il y a une forte hétérogénéité de ces référentiels. Donc il y a une hétérogénéité de la manière dont on définit le contenu de ces blocs aussi, en plus d'une hétérogénéité dans leur certification. Je vais conclure rapidement peut-être, mais sûrement sur ce que vous connaissez le mieux, qui est l'impact de la transition numérique sur l'action de formation en elle-même. Évidemment, vous le savez, le numérique, c'est un levier de transformation de l'action de formation et d'accès à la formation. Le Code du travail énonce les conditions qui sont respectées pour qu'une prestation soit considérée comme une action de formation. Donc elle doit comporter, justifier les éléments suivants. La loi travail de 2016 a spécifié que les formations à distance étaient incluses dans la définition de l'action de formation. C'est le décret formation à distance qui est sorti récemment. Et dans le document d'orientation du gouvernement qui a été transmis aux partenaires sociaux il y a une quinzaine de jours, en vue de préparer la négociation interprofessionnelle sur la formation professionnelle, dans ce document d'orientation du gouvernement, il est proposé de réfléchir à un élargissement de la notion d'action de formation, de simplifier la présentation du plan de formation des entreprises, en supprimant notamment les catégories du plan de formation. Et donc, plus probablement, la notion d'action de formation, elle va s'ouvrir à la formation en situation de travail. Il y a des expérimentations en cours aujourd'hui sur l'apprentissage en situation de travail, mais ça pose tout un tas de questions de validation, de certification, de reconnaissance, donc juridique y compris, mais il va peut-être y avoir des avancées suite à la prochaine, enfin, ou en tout cas dans le cadre de la réflexion sur la prochaine loi formation professionnelle. On a une diversification des ressources pour apprendre, mais ce n'est pas à vous que je vais apprendre ça, vous connaissez ça bien mieux que moi, une diversification des parcours d'apprentissage. Je voulais simplement, pour conclure, souligner que c'est une opportunité, le numérique, qui n'est évidemment pas sans risque. Le premier risque, c'est l'éparpillement des certifications et l'hétérogénéité de leurs valeurs, du coup. C'est-à-dire que tous ces blocs, ils n'auront peut-être pas la même valeur pour tous les individus. Et donc, ça risque d'hiérarchiser les blocs de compétences en fonction de leur mode de certification et de leur origine et de leur mode d'obtention. Donc, quel garant de l'équivalence? Quel garant pour que tous ces blocs aient la même valeur, quel que soit le certificateur? Le second risque, qui est en lien, c'est un renforcement des inégalités. on sait que le numérique, il n'est pas accessible à tous. C'est-à-dire qu'à la fois, c'est une formidable opportunité pour des personnes qui ne pourraient pas être en présentiel, mais c'est aussi un facteur d'inégalité. On a encore des phénomènes importants de ce qu'on appelle l'électronisme, c'est-à-dire une partie de la population active qui ne sait pas se servir du numérique. J'ai rappelé tout à l'heure que les compétences de base ne sont pas acquises pour un nombre encore important de la population active, avec un nombre, ce sont surtout des seniors qui sont évidemment concernés par la non-maîtrise des compétences numériques, mais aussi des gens peu qualifiés. Et le risque, c'est que le numérique, c'est à la fois un levier d'accès, mais ça peut être aussi... le risque, c'est qu'il renforce les inégalités d'accès aussi, entre ceux qui savent se servir de ces outils et ceux qui, soit n'y ont pas accès, soit ne savent pas s'en servir. C'est ce qu'on appelle l'effet Mathieu, c'est-à-dire qu'on risque d'avoir, encore une fois, ceux qui sont les mieux outillés, les mieux formés, les mieux équipés, qui vont savoir se saisir de ces opportunités du numérique, et puis ceux qui en auraient le plus besoin, qui vont rester au bord de la route. Donc, un enjeu d'accompagnement évidemment central pour que le numérique soit un levier d'opportunité et d'émancipation pour tous, parce qu'évidemment, ça n'est qu'un outil en l'état, et évidemment, ces opportunités viendront de ce que nous arriverons à en faire, y compris en termes de régulation des politiques publiques pour cela. Voilà. Merci.
Bien, merci beaucoup, Hélène. C'est effectivement très riche comme présentation et ça pose beaucoup, beaucoup de questions. Moi, presque d'un point de vue naïf, j'aurais envie de dire que en fait, quand on regarde si 30% des gens ont besoin d'évoluer dans leurs soft skills, si les métiers qui vont être transformés sont des métiers de plutôt haute qualification, la réponse dans tous les cas, c'est la formation. Donc peut-être qu'on est exactement là où il faut se structurer en termes d'apport pour la société, et dire que l'enseignement supérieur a des enjeux devant lui qui sont énormes, et il faut qu'on les prenne à bras le corps parce que la société en a besoin.
La formation, c'est vraiment la réponse, c'est ce qu'on entend tout le temps, c'est-à-dire que la formation, c'est la réponse à ces mutations du travail et de l'emploi pour permettre aux individus de s'adapter, d'évoluer. On entend et on le voit, hein, il y a une mutation très forte des métiers. C'est ce que je disais, c'est pas tant la destruction que la transformation du contenu. Donc les individus doivent être en capacité de s'adapter à ces évolutions. Et c'est vraiment de l'apprentissage tout au long de la vie. Après, il y a un enjeu d'accès à cette formation tout au long de la vie. Et le numérique, c'est un levier formidable. Mais voilà,
c'est aussi une réponse, je pense, à ce que vous disiez tout à l'heure, que la transition numérique, elle génère des peurs, du stress. Ce qu'on comprend, mais se former, c'est aussi permettre de moins être sensible à la peur de l'inconnu. Et
alors après, il y a la question de se former à quoi. C'est-à-dire que je passais un peu vite à la fin, mais cette question des compétences transversales, c'est quand même ce qu'on a le plus de mal à identifier. C'est peut-être ce qu'on a le plus de mal à enseigner aussi. Ça demande une rénovation aussi des pratiques pédagogiques, y compris des tout-petits. Hein. On a des études qui montrent que en France, on est un des pays où le travail en groupe est le moins valorisé. On a encore une logique très, très descendante d'apprentissage. Enfin, voilà. Donc il y a aussi des méthodes à rénover, et ça a déjà commencé. Mais voilà, c'est toute une transformation de la société qui doit être effectuée. Et donc se former à quoi? Et là, il y a une question qui est vraiment centrale.
Alors, c'est peut-être pas facile de répondre, se former à quoi. Par contre, il y a quelque chose dont on est sûr, c'est qu'il faut apprendre à apprendre. Et ça va être constant.
C'est pas facile d'apprendre à apprendre.
Non, mais en tout cas, l'enseignement supérieur répond aussi à ça. C'est-à-dire que dans les compétences transversales, on va former nos étudiants à toujours se remettre en cause, à savoir analyser un problème nouveau, à trouver des éléments de réponse, à aller interroger une littérature sur une question. En fait, c'est des compétences que nous, on a dans le domaine de la recherche et qu'on va pouvoir transférer aussi dans le domaine du monde professionnel, quand bien même on ne sait pas dans quelle mesure des nouveaux métiers vont se créer dans 5 à 10 ans. Mais apprendre à se remettre en cause tout le temps, je pense que c'est une dimension du chercheur qui est transférable dans l'enseignement qu'on donne à nos étudiants. Bon, je voudrais pas que ce soit que moi qui parle, parce que on a juste le temps de prendre une question ou deux, si elles sont très rapides avant la pause. Voilà, alors il y en a une sur le côté gauche de la salle, Vincent Meyver.
Exactement. Université numérique thématique des sciences objets. Je suis là, à gauche. Là, vous avez parlé du risque avec le numérique de l'éducation. l'hétérogénéité de la valeur des certifications. J'ai une question simple, est-ce que ce n'est pas déjà le cas avec les diplômes?
Les diplômes, en tout cas, vous allez me dire, en fonction de là où on l'obtient, peut-être. Parce que le diplôme, sinon, il est justement, c'est une garantie par l'éducation nationale qu'il a la même valeur partout. Alors, je suis d'accord qu'on peut discuter entre la valeur formelle et la valeur réelle. Mais en tout cas, c'est une garantie, normalement, l'égalité, que le diplôme a la même valeur partout. Mais oui, ça pose une question entre le formel et le réel. On sait qu'obtenir sa licence ou son bac dans certaines universités ou certains lycées, c'est pas une question de valeur, c'est aussi une question de signal. Différentes, y compris en termes d'insertion sur le marché du travail.
Merci.
Une dernière question. Bien, il y en aura d'autres pendant la pause, j'en doute pas. Merci encore, Hélène.